Courant d'air
au-delà des frontières.
Courant d'air, des interviews de globe-trotteurs et des témoignages de voyageurs étrangers qui habitent en Bretagne à 13h tous les mardis. Salut à tous, c'est Nora dans Courant d'air, l'émission qui vous fait voyager. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Rome, la capitale italienne, avec Laurine et Guillaume. Et puis en seconde partie d'émission, on fera la connaissance d'Alberto, qui est péruvien. Il a vécu en fait une vingtaine d'années à Lima et depuis à peu près 30 ans, il habite en Bretagne. Je suis en compagnie de Guillaume et Laurine. Laurine a vécu plusieurs années en Italie, dont un an à Naples. Et Guillaume est un grand passionné d'histoire de l'art. Il y est allé aussi dans un cadre plus touristique. Rome, c'est un musée à ciel ouvert. Alors, qu'est-ce qui justifie cette expression-là ?
Quand on va à Rome, la première chose que l'on remarque, c'est quand on sort de la gare, si on vient par le train, donc par Termini, c'est que directement, vous voyez plein de monuments architecturaux, il y en a partout. Vous allez pouvoir traverser l'histoire de l'Antiquité jusqu'à nos jours en voyant toutes les étapes de construction, allant de l'Antiquité, la période médiévale, la Renaissance, le Baroque, l'art contemporain, même l'art fasciste.
Laurine, toi qui as vécu à Rome, est-ce que tu dirais que c'est dans cette capitale où il fait bon vivre ? Est-ce qu'il y a du monde déjà ? Est-ce que c'est grand ?
Alors Rome, c'est très grand, effectivement. C'est très touristique. Faut penser à ça, c'est comme une capitale, donc il y a énormément de monde. Après, Rome, c'est aussi une ville de travailleurs. Il y a très peu de familles, on va dire, avec des enfants, des choses comme ça. Donc le centre-ville, c'est beaucoup de monuments pour le tourisme, mais il y a aussi beaucoup de monuments qui sont complètement restaurés et on en fait des bureaux. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans le centre-ville de Rome. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de magasins, le tourisme, le shopping, tout ça.
S'il y a un élément marquant à Rome, vraiment, c'est que quand vous vous baladez, il y a à peu près une église tous les 200 mètres, qu'elles sont majoritairement de la période baroque, c'est-à-dire 16e siècle, 17e siècle, sachant que ça ne correspond pas aux périodes historiques artistique française, parce que nous on les a eus plus tard, ils ont été en avance sur nous, ils ont développé cet art-là. Et si vous voulez vraiment en voir quelques-unes de majeures, vous allez à Saint-Ignace de Loyola, à l'église du Jésus, ou encore à Santa Maria della Victoria, où là vous allez pouvoir admirer à la fois les œuvres du Bernin, les tableaux du Caravage, les grandes architectures de Vignoles, etc. C'est à peu près la même époque, ça va s'étaler exactement sur le 16e siècle. C'est l'époque où véritablement l'Église va faire preuve de pédagogie, de didactique pour ses fidèles, pour ressusciter un émoi de foi. Et donc, on va leur donner des images à voir, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une époque où les gens sont assez peu culturés, et donc il faut faire des images marquantes. À Rome, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a une lumière très chaude, presque comme la lumière du soleil la nuit, ce qui est assez agréable, puisqu'en fait, ça va vous éclairer les monuments d'une certaine manière qu'on se sent bien, comme dans un cocon, on se balade, on est vraiment dans l'extase personnelle, on peut admirer les œuvres d'art, et la lumière est assez basse, elle n'est pas spécialement zénitale. Donc c'est-à-dire au-dessus de nous, elle est plutôt sur les côtés ou en plein centre de la rue, mais très basse, ce qui permet d'avoir une lumière continue, presque diffuse à certains endroits. Et c'est vraiment très beau ce jeu de lumière, qui d'ailleurs peut rappeler aussi la période baroque, puisque c'était le clair-obscur, etc. Et je pense qu'ils ont voulu continuer à faire ce jeu de lumière.
Si on s'intéresse moins à l'architecture, mais qu'on a juste envie de sortir à Rome, on va où ?
Bon, il y a des cafés à chaque coin de rue, hein. C'est un peu comme les églises. Les églises sont un peu entourées de cafés. C'est bien connu, les Italiens en boivent beaucoup à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Parce qu'il y a des cafés qui sont aussi nocturnes. Et contrairement en France, où en France on voit que ce sont plutôt des bars qui servent de l'alcool, en Italie, on vend plus beaucoup de cafés en fait le soir aussi. Une grande place plutôt jeune et plutôt franco-italienne, on va dire aussi, si on veut avoir des conversations en français, par exemple, on est un peu perdu. C'est la place Campo dei Fiori, qui se trouve derrière le Palais Farnèse, en fait, derrière l'ambassade de France. C'est que des bars. Il y a le marché la journée, donc voilà, le petit marché, mais il y a que des bars le soir qui vendent, qui font des after-eight, tout ça. Un autre quartier vivant la nuit, c'est le Trastevere. Donc le Trastevere, c'est pareil, c'est plein de restaurants qui ferment très très tard. Toujours entouré de bars, donc voilà, les gens généralement ils vont au resto, ils quittent le resto, ils vont au bar, et puis après bah oh, j'ai une petite faim, en fait on va aller se prendre un dessert, on retourne au resto, ça se fait beaucoup.
Mais en fait à Rome tout est ouvert jusqu'au matin ?
Il y en a beaucoup parce que on revient aussi à l'histoire du tourisme. Il y a Rome by Night, donc comme ce que disait Guillaume tout à l'heure, la lumière de Rome la nuit c'est quelque chose de magique. Tout est éclairé, il n'y a pas une seule rue où il n'y a pas de lumière. Les monuments sont éclairés, les fontaines sont éclairées. Rome, non, ça reste autant vivant de jour que de nuit. Donc effectivement, la nuit, c'est plus des... Il n'y a pas de magasins qui sont ouverts, mais c'est plus les bars, les restaurants, les boîtes de nuit. Parce qu'il y a des boîtes de nuit en centre-ville aussi. J'ai presque envie de dire, il y en a certaines où la piste est presque dehors, en fait. Il y en a où il y a des pistes de danse qui sont sur des places. Moi, j'ai vu faire où voilà, les gens ils sont autour de l'entrée en fait, avec chacun à leur verre. Comme c'est tellement petit à l'intérieur, ils ont tous leur verre et ils sont tous autour de l'entrée. Puis il y en a qui dansent au milieu parce que la musique est suffisamment forte pour qu'on puisse l'entendre de l'extérieur. C'est très vivant aussi la nuit et ça reste ouvert assez longtemps.
Le meilleur expresso de Rome, c'est où ?
On dit souvent que c'est à Sant'Eustachio, qui est Piazza Sant'Eustachio. Et pour la meilleure glace, il faut aller à Gigliotti, derrière le Panthéon, et qui fait vraiment des glaces succulentes.
Pour moi, pour le meilleur café, c'est... Le bar n'a pas de nom. C'est un petit bar que vous trouverez derrière la Via Le 20 Settembre. C'est un tout petit bar. Il y a deux tables peut-être dedans et ils font un café qui s'appelle Café Cremina. Et en fait, c'est un espèce de café avec une petite crème que font les Italiens. C'est en fait pour, plutôt que mettre un morceau de sucre ou une dosette de sucre ou une sucrète dans son café, pour qu'il ait un petit peu plus de goût. C'est quelque chose fait à base de blanc d'œuf, de crème et de sucre roux. Donc le sucre roux garde ce côté croquant et en fait qui mélange directement au café.
Les Italiens sont sympas. Et est-ce que d'ailleurs ils correspondent au cliché que nous on se fait des Italiens ?
Les Italiens sont très sympas. C'est des gens très ouverts, très accueillants et gentils par nature, on va dire. Toujours là pour aider. On peut arrêter n'importe qui dans la rue pour lui demander son chemin. Il n'y en a pas un seul qui va détourner le regard en disant j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Quoi.
D'ailleurs, vous avez été bien surpris en vous promenant dans les rues de Naples cette fois. Une vieille dame qui a offert un verre d'eau et puis une assiette de pâtes à sa petite sœur parce qu'elle ne se sentait pas bien quand vous vous promeniez. Quoi.
Bah oui, elle nous a invités chez elle en fait. Puis en plus à Naples, c'est aussi c'est vraiment la chaleur humaine parce que les petits vieux sont dans la rue. Alors après, c'est un peu le cliché du sud aussi, parce que Naples, on est quand même beaucoup plus au sud que Rome. Mais comme Naples, ce sont des bâtiments qui sont assez hauts aussi.
O prima comincia così, enorme, anzi non prevede, come è venuto in mente, è uno, on Antonio Vidiello.
Quand il fait très chaud l'été, les petits vieux sortent dans la rue pour mettre leurs chaises à l'ombre, parce que du coup il n'y a plus de soleil l'après-midi dans les rues. Puis ils se mettent au frais en fait avec la fraîcheur de la pierre des bâtiments. Puis ils regardent les gens passer, ça leur fait leur petit feuilleton de l'après-midi quoi.
Il y a beaucoup d'histoires autour de l'Italie, mais aussi il y a une légende par rapport à la fontaine de Trevi.
Donc la fontaine de Trevi, c'est qu'il faut se mettre dos à la fontaine et lancer une pièce de la main droite par-dessus l'épaule gauche, et c'est pour que vous puissiez revenir à Rome.
Si on souhaite visiter Rome, aller se faire un petit voyage, même entre potes, en fait, rapidement, mettons une semaine avec un budget réduit, à Rome, c'est possible ?
Bah, vous pouvez faire ça complètement, parce qu'il faut savoir que pour partir à Rome... En gros, il va falloir prévoir un grand maximum 400 euros pour 10 jours. Enfin, si vous choisissez bien votre destination, que vous ne prenez pas l'hôtel trop cher, que vous privilégiez les auberges de jeunesse. Il faut savoir qu'à Rome, vous pouvez manger à la journée pour maximum 15 euros, avec entrée, plat, dessert à chaque fois entre le midi et le soir. Que la ville n'est pas chère en soi, il faut savoir que c'est une des villes, par exemple, pour le tourisme, qui va être les moins chères. Les musées vont tous être entre 5 et 8 euros grand maximum. Vous allez en avoir beaucoup de gratuits. Toutes les églises, de toute façon, sont gratuites. Il n'y a pas besoin de payer, il n'y a besoin de rien. Ensuite, même si vous êtes intéressé par l'Antiquité, le forum n'est pas payant. Le Colisée, si, par contre, parce que là, c'est plus pour de l'entretien.
Il y aurait éventuellement quelques conseils, des petits tuyaux à donner aux gens avant de se rendre dans la capitale italienne, comme ne pas prendre le bus, par exemple, prendre des taxis.
Pour prendre les transports en commun à Rome, il faut aimer la proximité. C'est pas comme en France où les bus passent toutes les 3 minutes, tous les 3 minutes par exemple quand on est à Rennes, il y a des horaires. À Rome, ça marche pas comme ça. Vous avez des horaires de bus sur les panneaux. Néanmoins, rien n'est respecté. Le bus arrive quand il veut, il part quand il veut. Quelquefois, deux bus se suivent. Quelquefois, vous pouvez attendre une demi-heure, 40 minutes, une heure avant que le bus arrive. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez vous excentrer un peu, à Rome, on peut tout faire à pied. On peut tout faire à pied d'un bout à l'autre du centre-ville de Rome. On en a pour aller en regardant, en ayant vraiment la tête en l'air. On en a pour une grosse demi-heure et encore.
Bah moi, ce que je conseillerais également, c'est surtout ne pas prendre de sac à dos avec des systèmes de boucles, etc. Parce que alors là, vous n'allez pas les sentir partir quand ils vont arriver derrière vous. Ils vont faire un coup de clip et ce sera fini. Ne pas mettre d'argent dans ses poches. Et pour les femmes, ne surtout pas prévoir de sac à main beaucoup trop long. Vraiment, si vous voulez passer un agréable moment, mélangez-vous avec les Romains et ne restez pas que dans les lieux touristiques, allez dans les petites rues. Vraiment, pour vivre le Rhum, je sais qu'après, on peut avoir une barrière de la langue. Mais comme on a des langues latines, on arrive facilement à se faire comprendre. Si vous avez des bases en espagnol, ils comprennent facilement l'espagnol aussi, parce que ça reste assez proche, même si c'est différent. Vous arriverez à communiquer avec eux et excentrez-vous, profitez vraiment de Rome.
Le témoignage d'Alberto, c'est juste après ce titre. Incanto de Tiziano Ferro. A tout de suite.
Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare, per questo a volte ci facciamo così male. Desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo delle parole gela lo stupore, se non ti so scaldare né curare dal rumore, ho soltanto una vita e la vorrei dividere con te, che anche nel difetto e nell'imperfezione sei soltanto incanto, incanto istantanee di secondi lunghi. Quanto un anno bisestile, quando posi la tua testa su di me, il dolore tace incanto. Incanto, semplicemente incanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo delle parole gela lo stupore, se non ti so scaldare né curare dal rumore, ho soltanto una vita, la vorrei rivivere così. Incanto, è un incanto, istantanee di secondi lunghi, quanto un anno bisestile, quando posi la tua testa su di me, il dolore incanto. Incanto, semplicemente incanto. Na na na, na na na, na 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 na. Il sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto. scatto istantanee, di secondi lunghi, quanto un anno vise stile. Quando posi la tua testa su di me, il dolore tace incanto. Incanto, semplicemente incanto.
Ici Enora, je suis en compagnie d'Alberto qui habite en campagne morbihonnaise depuis bientôt 30 ans. Alberto, t'as grandi à Lima, au Pérou. Quand t'étais gamin, en fait, avec tes frères et sœurs, vous traversiez la chaîne de montagnes, vous alliez dans la campagne, dans les Andes, pour passer vos vacances en fait, chez tes grands-parents.
Oui, c'est ça. On partait tous les étés au mois de janvier, février. Et on partait pas seulement que nous, sinon toute la famille, les cousins et les cousines. On était toute une troupe de familles. Et on passait 2-3 mois à Huancayo, Concepción exactement, une petite ville perchée en montagne.
Et les jeux auxquels vous jouiez quand vous étiez gamin, ça ressemblait à quoi ?
On jouait aux explorateurs. On allait, bien sûr, on arrivait de la ville, on allait découvrir la campagne, monter dans les arbres, faire des bateaux dans les rivières, se baigner dans les cascades. C'était l'aventure pour nous.
Vous habitiez à Lima, qui est en fait au niveau de la mer. Mais par contre, vous alliez en altitude, quoi. Et c'était pas trop difficile de supporter justement cette différence-là.
Aussi, quand on arrivait, on prenait le train pour y aller à Huancayo, il fallait grimper jusqu'à 4000 mètres d'altitude, 4500, 4800 mètres d'altitude. Et c'est là qu'on était tous malades, malades à vomir, on perdait même des connaissances. Heureusement, il y avait des infirmières qui passaient avec l'oxygène pour nous donner un peu d'oxygène et boire un petit peu d'artisanat de coca.
Maintenant, tu vis en Bretagne. Tu as rencontré ta femme en fait au Pérou parce qu'elle était passionnée par le Pérou à la base. Et puis, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés parce que du coup, ta sœur avait des amis bretons. Elle avait fait des études à Paris. Vous avez quand même passé 4 ans à vous envoyer des lettres, en fait, avec ta femme.
Oui, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet ou le téléphone. On communiquait que par lettre. L'arrivée de la lettre, ça durait 15 jours, une semaine. Mais bon, toutes les semaines, on avait des nouvelles.
Tu as eu une vie assez riche, finalement, puisque à la base, tu travaillais pour le ministère de la Santé. La situation au Pérou s'est grandement détériorée, donc tu es allé vivre au Venezuela. En gros, tu avais une sorte de job de manager dans une plantation de café, en fait, près de la frontière avec la Colombie. Et puis finalement, c'est après que tu es arrivé en Bretagne, et là aussi, tu as fait différents boulots. Donc ça faisait déjà quelques années que tu connaissais ta femme, mais du coup, vous n'aviez pas spécialement prévu de vous marier. Mais finalement, ça s'est fait relativement naturellement, finalement, par rapport aux circonstances, quoi.
Dans notre projet, ce n'était pas au début ça, de se marier. On pensait vivre ensemble pour mieux se connaître, parce qu'avec la distance, les lettres, c'est vrai, c'était pas facile non plus. Et finalement, bon, on était obligés un peu de... pour pouvoir avoir mes papiers français, pour pouvoir sortir du pays, avoir un mariage civil. Donc avec ça, je peux tramiter, faire toutes mes démarches à l'ambassade de France pour pouvoir rentrer en France.
T'es pas très superstitieux, contrairement à pas mal de monde visiblement au Pérou, parce que vous vous êtes marié un mardi?
Oh non, c'est vrai que... au Pérou, on dit « el martes no te cases ni te embarques ». Ça veut dire, au Pérou, le mardi, tu ne te maries pas, ni tu n'embarques pas. Mais nous, on voulait faire ces jours-là parce qu'on avait prévu prendre les bus et partir avec les amis, les invités qui sont venus de France le lendemain. Donc, on n'avait pas beaucoup de choix.
Et finalement, donc après toutes ces pérégrinations, tu es arrivé en Bretagne. Tu te figurais un peu la France comme ce que tu avais entendu, comme Paris, la Ville Lumière, ce genre de choses. Et finalement, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ce à quoi tu t'attendais.
C'est vrai qu'au au Pérou, pour nous, la France, c'est Paris, les grandes villes, la ville de lumière. Et quand j'ai arrivé en France, à Rennes exactement, on est arrivé fin de journée, et j'arrivais presque à la tombée de la nuit. Et on est passé par l'ancienne route des Rennes, Vannes, et il fallait traverser toute la forêt brocélienne. Quand j'ai vu qu'on partait par cette route où il n'y avait aucune maison, aucun habitant, on disait, mais où est-ce que je suis venu me fourrer dans cette jungle française ?
Tu es arrivé dans un pays étranger dans lequel tu n'avais jamais mis les pieds pour finalement y rester, depuis en fait y est resté quoi. Et j'imagine que ça a dû pas mal être l'inconnu quoi, ça a dû être assez déphasant en tout cas au début.
Oh oui, c'était bien difficile au début parce qu'on changeait des langues, on changeait des habitudes, on changeait des amis, de la famille, bon, c'était très très dur, c'est vrai, au début, les premiers mois, oui. Mais après, bon, avec l'aide, les amis, la famille, bon, je me suis adapté facilement.
Mais c'est vrai que c'était assez courageux parce que finalement, toi tu connaissais l'anglais, t'avais appris un peu, t'avais des notions d'anglais parce qu'à la base le rêve c'était aussi au Pérou en tout cas de rejoindre plutôt les États-Unis. Et finalement tu t'es retrouvé en France et tu parlais pas le français. En fait au début avec ta femme vous parliez en espagnol. Là aussi j'imagine que de ne pas forcément connaître les codes sociaux et en plus de ça de pas spécialement maîtriser la langue, ça fait quand même un défi supplémentaire quoi.
Oh oui, c'est vrai que je me souviens, on avait des soirées, ma femme, c'est normal, il fallait présenter à ses amis, ses copains, et on avait des soirées entières, des repas. Des repas des familles, des repas d'amis, c'est vrai, ici les repas, ça dure très 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 longtemps, donc à la fin de la journée, j'avais mal à la tête.
D'ailleurs, il y a des petites différences de langue aussi, parce que tu as deux prénoms. C'est José Alberto, mais ton autre frère aussi s'appelle José Roberto. Toi là-bas, en fait, au Pérou, on t'appelle Alberto, ou même Albertito, ou Tito pour les intimes. Mais ton premier prénom, c'est José. Les gens ne comprenaient pas forcément pourquoi tu t'appelais pas José, en fait. Tu t'appelais Alberto, c'est ton deuxième prénom, mais tu n'utilises pas le premier, mais...
Quand j'ai travaillé dans une usine, les gens, quand ils ont vu ma cote la première fois, c'était marqué José. Et j'avais dit à tout le monde, je m'appelais Alberto. Et quand ils sont venus, ils ne comprenaient pas comment est-ce que j'allais vraiment m'appeler, si c'était José, si c'était Alberto, si c'était Tito pour les intimes. C'était une confusion pour eux.
D'ailleurs, Alberto, tu as travaillé en fait dans une usine de fabrication automobile, de produits automobiles, et vous avez même carrément monté un syndicat là-bas.
C'est vrai qu'on a, avec un groupe de collègues, d'ouvriers, on a monté un syndicat parce qu'on voyait qu'il y avait des problèmes, des différences de salaires par rapport à des autres villes. On a fait venir des syndicalistes pour nous expliquer parce que nous, on ne connaissait rien, on découvrait.
Mais toi, tu es quelqu'un aussi qui a une personnalité prompte aussi à agir quand il faut, quoi.
Oui, je crois que c'est dans la personnalité de tout Pérouvien. Là, on est un peu révolutionnaire, c'est vrai qu'on ne se laisse pas marcher sous notre pied. Ouais.
Ça fait partie de votre passé, en fait, aussi peut-être de l'histoire du Pérou.
Oh, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes au Pérou, des gens soumis, mais bon, on a eu aussi des gens qui se sont révélés et ont lutté contre la oppression au début, ça, parce que ça vient de l'époque des Incas, contre les Espagnols. Et je pense qu'on a un peu gardé ce caractère.
T'as 56 ans, mais t'es aussi un homme moderne, parce que t'es très relié avec Internet, les réseaux sociaux, tout ça. Je t'ai vu tout à l'heure avec ta tablette, pas de problème, quoi. J'imagine que ça fait partie aussi du jeu, que d'être loin de chez soi pour garder contact avec sa famille. Il faut forcément passer par là aussi, quoi.
Moderne, bon, non, mais c'est vrai, c'est un grand outil pour communiquer avec la famille, les amis, les gens qu'on a connus à l'étranger. Pour communiquer, pour discuter, envoyer des photos, c'est très pratique.
Tu trouves, Alberto, qu'on a beaucoup de chance, nous, d'être ici et d'avoir ce niveau de vie-là ?
il faut partir, il faut voyager, il faut sortir pour savoir qu'ici en France, on est très gâté en fait, avec tout ce que c'est sécurité sociale, tout ce que sont des aides, aide à la famille, aide aux étudiants, aide. On a plein de choses, on est. Qu'on ne sait pas les apprécier, on ne sait pas. On demande toujours de plus en plus d'avoir des choses, mais bon, on ne sait pas valorer vraiment que la France il a une grande richesse. Pour finir, j'aimerais bien dire qu'ici en France, on est tellement bien, c'est vrai que nous, étrangers, on apprécie la solidarité, la liberté, l'égalité, les trois devises françaises qui font que ce pays soit un des meilleurs. Et j'aimerais bien aussi dire à tout le monde que la vie ici en France est belle. Et continuez, il faut profiter au maximum.
D'ailleurs, tu parles de solidarité, c'est un partage au quotidien en fait avec tes voisins, vous vous rendez des services?
Ici en campagne est différent, je pense qu'en ville les gens ils sont plus pressés, plus. Mais ici en campagne on a des voisins super et on s'entraide entre nous, on est très solidaires.
C'est la fin de cette émission. Retrouvez Courant d'air sur www.radiocampusrennes.fr. Si ça vous a plu, retrouvez les podcasts. Vous pouvez aussi liker la page Facebook de Courant d'air. Merci à nos invités Laurine, Guillaume et Alberto. Merci à Djibril pour la musique de Courant d'air et puis à Claude aussi pour son soutien à la réalisation. On écoute Quizás un día así, écrit par Chaboca Grande, interprété par Eva Ayón, qui sont toutes les deux de grandes artistes péruviennes. À la semaine prochaine.
Adiós y hasta una próxima. Buena semana.
Brotó el amor, sutil surgió la ensoñación del alma al despertar a la ilusión de vida en comunión de dos que quieren bien, la dulce sensación de estar con Dios y así tener la plenitud de la gloria de amar al dar el ser. Vida, alma, mente, sangre, todo hasta la raíz se vierte en ti, no sientes ti. Soy de ti, no sé de otra forma de ser. Ser mujer y amarte a ti, todo este ser vive de ti. Ven, quizás, quizás un día sí. Como una luz de Dios, brotó el amor. Sutil surgió la ensoñación del alma al despertar a la ilusión de vida en comunión de dos que quieren bien, la dulce sensación estar con Dios y así tener la plenitud de la gloria de amar al dar el ser.